Bonsoir cher Xavier.
Bonsoir Arnaud.
Ce soir un peu d'animation.
Un peu d'animation puisqu'on arrive au 37e Festival d'Annecy qui commencera lundi prochain. Zambilenium, un film qui a déjà été montré à Cannes, y sera en compétition officielle. Il était hors compétition à Cannes. C'est un film d'Arthur Depin, adapté de sa propre bande dessinée et dernier représentant de cette vague de cinéma français d'animation remarquée depuis environ les années 2000, disons entre la sortie de Kirikou et la sorcière et un peu plus tard les triplettes de Belleville. Une vague originale portée notamment par les adaptations de bandes dessinées, les triplettes, Ernest et Célestine, sans parler sur un autre mode de production et autre registre d'ailleurs de la série des Astérix, mais pas seulement par la bande dessinée. En fait, la presse française mettait l'accent le mois dernier sur l'économie et le talent de cette animation qui tient son rang grâce à l'Europe, selon La Croix, qui analysait les derniers chiffres du Centre National du Cinéma. En fait, de 2006 à 2015, c'est d'abord le choix des coproductions qui marque, puisque les deux tiers des 77 longs métrages d'animation ont été réalisés en coproduction. Alliance gagnante, qu'on remarque d'ailleurs assez tôt avec les triplettes de Belleville en 2003, donc produit par la France, la Belgique et le Québec. La Croix explore ensuite notamment cette relation franco-belge où se nouent un certain nombre de ces coproductions de ces dernières années et à venir, comme celle de Didier Brunner, Kirikou et la sorcière, les triplettes de Belleville, Ernest et Célestine, une équipe, on pourrait dire, qui marche, puisque c'est avec son réalisateur, en effet, Benjamin Reyner, qu'il produira, Didier Brunner, Le Grand Méchant Renard, qui sort le 21 juin en salle. Nous partageons les mêmes affinités et les mêmes exigences, une belgitude qui nous plaît beaucoup, insiste Didier Brunner au sujet de ses partenaires. Deuxièmement, la presse, elle, insiste sur la filière de formation développée ces dernières années, notamment dans une série d'articles du Monde, là, sur l'école des Gobelins, prestigieuse et historique école d'animation, jugée deux années de suite meilleure au monde par le site spécialisé Animation Career Review, note le journal, et d'où sont issus certains des réalisateurs de cette vague française. On pense à Simon Roubi, qui avait réalisé Adama en 2015, ou sur un mode plus hollywoodien, c'est Pierre Coffin, qui réalise Les Mois moches et méchants, mais aussi Les Mignons. Cette situation n'est pas tout à fait nouvelle, c'est vrai, ces articles élogieux viennent confirmer un constat déjà fait par Télérama en 2012, l'année du deuxième Kirikou, d'Ernest et Célestine justement, et du Magasin des Suicides aussi, hein, de Patrice Lecomte. On voit que cette animation attire d'autres réalisateurs. Triomphe de l'animation française, disait Cécile Mury à l'époque dans Télérama, la French Touch, hein, comme on l'appelle encore une fois, s'arracherait à l'étranger. C'est l'explosion des formations plus ou moins sérieuses qui en témoigne. 5 en 1998, l'année du premier Kirikou, 73 en 2012, près de 80 aujourd'hui si j'ai bien compté. Et pourtant, derrière ce tableau très élogieux, et il est vrai un peu déconnecté du monde extérieur et de la concurrence américaine et japonaise, le pari sur l'animation française n'est pas toujours commercialement gagnant. C'est peut-être là, d'ailleurs, que les différences entre succès critique et succès public se font le plus sentir, avec Adama notamment, dont je parlais, un beau film remarqué par la critique, mettant en scène un enfant d'Afrique de l'Ouest assez imaginaire à la recherche de son frère sur le front d'une première guerre mondiale tout aussi irréelle. 4 millions d'euros de budget, 70 000 entrées seulement. L'année dernière, La Croix s'intéressait d'ailleurs aux mésaventures des films d'animation français, remarquant qu'en 2015, 5 longs métrages, dont 2 primés à Annecy, avaient fait moins de 200 000 entrées. C'était Adama, Dofus, Avril et Le Monde Truc, Phantom Boy est tout en haut du monde. En cause, alors là, elles sont multiples, hein, des questions de calendrier, de distribution, de concurrence publicitaire américaine, peut-être aussi de scénario, c'est le plus intéressant. Les thèmes abordés, la maladie infantile dans Phantom Boy et les choix graphiques très épurés de tout en haut du monde ont peut-être rebuté les spectateurs abreuvés de films comiques en 3D avec des animaux qui parlent, disait le distributeur de ces films Didier Lacour. Didier Brunner, lui, s'interrogeait récemment même sur l'opportunité d'utiliser encore la 2D alors que la 3D, comme il le dit, rassure les producteurs et plaît au public. Au Festival d'Annecy, en tout cas cette année, peu de productions françaises, hein, seul Zambilenium, assez sombre et comique en même temps, sur les 9 longs métrages en compétition officielle, 7 sur les 47 en sélection de courts métrages. Et vous, alors, l'animation française vous séduit-elle?
Ah, ça c'est une question très large. On va peut-être laisser commencer Antoine Guillot, hein, qui est quand même, je pense, je ne vous ferai pas offense, le plus calé d'entre nous, moi que Julien Gester, et des goûts cachés pour l'animation dans tous ces états. Mais Antoine, vous suivez ça de près, vous?
Oui, plus ou moins, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de, de films qui ont été cités que je ne suis pas allé voir non plus.
Pour les raisons des échecs, il y a peut-être une question de qualité parfois aussi, non ?
Oui, mais pas cité. Après les questions des échecs, il faudrait rapporter aux échecs des films français en général. C'est-à-dire qu'on est aussi dans une économie qui ne repose plus tellement sur le nombre d'entrées en salle, mais aussi voilà, sur l'implication de diffuseurs, sur des ventes à l'étranger. Donc ça, c'est toujours les chiffres pour les comparer avec des films américains qui, eux, arrivent avec un rouleau compresseur de promotion. On parle moins des succès de Moi, Moche et Méchant qui font venir énormément de spectateurs. Et qui, pourquoi ? Parce que ce n'est pas vendu comme un film français. C'est très frappant que Moi, Moche et Méchant apparaît comme une production hollywoodienne et vendue et marketée comme une production hollywoodienne et marche très bien de ce côté-là. Par ailleurs, on a des succès artistiques qui sont tout à fait frappants. Vous n'avez pas cité La jeune fille sans main de Sébastien Lodenbach, qui, soit dit en passant, a eu le prix France Culture des étudiants de manière assez surprenante et réjouissante, parce que c'est un vrai acte artistique qui n'est pas dans cette économie-là. Je ne suis pas sûr qu'il ait fait beaucoup d'entrées non plus, mais c'est une preuve que dans l'animation, maintenant, grâce, il faut le dire, au fait que les films d'animation hollywoodiens et japonais ont inscrit dans l'idée que c'était des films comme les autres et que finalement c'était pas le Disney de Noël de notre enfance. Tout d'un coup, il y a un marché qui permet de générer des expressions artistiques formidables. Et effectivement, l'école des Gobelins, mais aussi ce qui s'est mis en place à Angoulême, au bord de la Charente, fait que il y a une expressivité artistique énorme en France et pas seulement des techniciens d'exception qui vont aller travailler à Hollywood parce que beaucoup sont formés en France et vont ensuite travailler dans les studios hollywoodiens et même au Japon. Donc voilà, non, il se passe des choses passionnantes et j'ai très envie de voir Zombielennium. Les extraits que j'ai vus me donnent extrêmement envie parce que la bande dessinée à l'origine est excellente et que le fait que ce soit son auteur lui-même, Arthur Depin, qui l'adapte est tout à fait prometteur.
Ça vous avait échappé, cette présence à Cannes.
Oui, alors c'était, je précise, personne ne l'a vu en fait, parce que c'était une séance pour les enfants.
Pour les enfants,
dans une salle où seule une vingtaine de journalistes avaient pu entrer.
Bon, vous avez encore l'air un peu d'un enfant pourtant, Julien.
C'est vous qui le dites.
De moins en moins, c'est ça.
On aurait pu aller ensemble.
Mais quand on prête un peu oreille à ce que dit cette industrie, quand on lit un peu des choses là-dessus, il semble quand même que, justement, les moyens qui se développent, se déploient à grande vitesse de cette expression artistique, de cette industrie, et non, ça notamment, je pense, il me semble surtout au succès qui est pour le coup indéniable et tout à fait entier de la production de séries animées en France et plutôt de courts-métrages que de longs par ailleurs. Voilà, on s'aperçoit qu'il y a quand même, il semble qu'il y ait quand même malgré tout encore un décalage considérable entre justement cette industrie, cette expression-là qui est en développement accéléré et l'évolution et l'invention, disons, d'un marché dédié. D'où d'ailleurs, enfin bon, il y a des films, il y aura toujours des films d'animation de très grande qualité qui ne trouveront pas leur public, comme il y a chaque semaine des films qu'on peut trouver très beaux qui ne sont pas d'animation et qui ne trouvent pas leur public. Mais il y a un ensemble de facteurs, et je crois que le milieu y est assez attentif, ou en tout cas attend de réelles évolutions, de marqueurs en tout cas, de ce manque d'attention peut-être, et de la présence en effet de l'animation peut-être à Cannes de manière plus significative. Alors par exemple les festivals de Berlin ou de Venise, pour citer des festivals de calibre comparable, ont plus volontiers accueilli de l'animation en compétition officielle, dans les sections les plus visibles. Pour l'instant c'est une évolution qui à Cannes se fait encore un peu attendre.
Alors après, il y a la même chose pour les documentaires.
On pourrait dire la même chose d'ailleurs, oui. D'ailleurs on note que quand un film permet de remplir les deux casquettes, documentaire d'animation.
Il est en sélection.
Il est en sélection parce qu'il permet de cocher deux cases à la fois. C'est arrivé, bah, par exemple, avec Valsak Bashir, d'Harry Folman, etc. Mais, et de la même façon, les Césars, aujourd'hui, il me semble, récompensent encore l'animation à travers une seule et même case qui est dévolue et au court et au long. On pourrait se demander pourquoi il n'y a pas deux films d'animation qui peuvent être nommés par ailleurs dans les catégories meilleurs films, meilleurs réalisateurs, alors qu'il y aurait eu quelques candidats ces dernières années qui auraient pu en tout cas y prétendre. C'est un ensemble de choses qui pourraient participer à l'évolution des mentalités, du public et donc l'invention d'un marché qui permettrait à cette industrie plutôt florissante, mais qui bute, je pense, sur ce plafond-là, sur cet effet de seuil-là, de se déployer tout à fait.
Muriel Joudet, pour cette question.
Oui, alors je vois pas beaucoup de films d'animation. Enfin, j'en vois quelques-uns. J'avais vu Ma vie de courgette, j'avais vu Baby Boss, bon ça c'est américain. Je vois Moche et Méchant que j'aime beaucoup. Après, j'ai beaucoup de préjugés quant à l'animation française, surtout, et l'animation en général. Je trouve que les scénarios sont assez verrouillés, qu'il y a une sorte de fétichisation de l'artisanat au détriment justement d'une écriture scénaristique plus originale. Et aussi quelque chose qui me frappe quand je vois des bandes annonces, c'est la laideur visuelle de certains films d'animation, surtout français, qui me rebute un peu et qui du coup se fait au détriment d'un univers visuel qui viendrait s'imposer comme Moi, Moche et Méchant, qui est aussi un film assez laid, mais qui arrive à imposer d'une façon assez totale son univers, notamment avec ses petits personnages, des mignons. Et alors, le film a quelque chose de très français, puisque quand on le voit, il y a une sorte de mise en scène et de gag à la Jacques Tati, je trouve, à mon sens. Donc voilà, je décèle un peu de Jacques Tati chez les mignons, qui me le rend très sympathique. Cette petite touche française au cœur d'une grosse machine hollywoodienne, ça me rend, moi, Moche et Méchant, donc comme une sorte d'exemple pour l'animation française à mes yeux.
Dernier mot, Xavier.
Oui, sur la question de l'invention d'un marché, Julien Gesteur, justement, toute la question, c'est de savoir s'il y a un marché qui est dédié ou s'il est à inventer. Et ça m'a frappé, justement, en préparant ce petit dossier, de voir que dans l'histoire de l'animation mondiale, mais récente, justement, on célébrait tout récemment là, Jeffrey Katzenberg, le producteur de Disney, qui a reçu un prix d'hommage à Cannes. Et c'est lui qui, justement, dans les années 90, avec toute une nouvelle vague de films Disney, a permis au studio Disney de se remettre un peu sur les rails et de retrouver leur public. Et je remarque que c'est quelques années après, effectivement, qu'on voit en France arriver cette vague innovatrice. Alors, est-ce que la France, est-ce que les écoles ont regardé les États-Unis? C'est vrai que les scénarios sont assez différents, mais on voit quelques techniques qui sont adaptées. D'ailleurs, récemment, notamment le fait d'utiliser des grands acteurs pour servir de voix de doublage. Ça se fait beaucoup aujourd'hui, enfin, de voix de doublage ou de voix tout court pour ces films d'animation. Et je remarque aussi qu'au début, en France, c'était effectivement très difficile. Tous les Kirikou n'ont pas trouvé leur succès, leur public tout de suite. Mais finalement, aujourd'hui, on a une filière qui est bien établie avec effectivement toujours certaines interrogations sur la qualité du dessin, mais ça dépend des studios qui sont tellement divers en France.
Les goûts et les couleurs, on est là pour en parler, mais est-ce que vous trouvez moche?
Kirikou, c'est très beau par contre.
Voilà. Bah, c'est très beau, vous trouvez ça très beau, et d'autres vous trouvez ça très moche, mais on peut pas, voilà. Antoine?
Oui, deux petits commentaires. Les grands acteurs qui font les voix, c'est juste pour assurer la promotion, parce que pour faire venir un Kirikou sur un plateau télé, c'est plus compliqué. Non, la question du moche ou du pas moche, moi, ce qui me frappe surtout, et c'est peut-être là qu'il y aurait à battre notre propre coulpe, c'est qu'il y a un vrai problème de la critique française par rapport au dessin animé, une vraie inculture graphique qui permet d'aller au-delà. Et excusez-moi, Muriel, du c'est beau, c'est moche, mais d'où ça vient, à quel univers ça se rattache. Et ça, c'est vraiment une spécificité française. Mis à part quelques organes qui s'y sont toujours intéressés, et notamment positifs dans cette tradition-là, il y a un déficit d'outils critiques pour aborder le dessin animé. Et je pense qu'il y aura un vrai effort à faire de ce côté-là.
Bon, on reste sur cette belle recommandation d'Antoine Guillot.